L'Épître au lecteur, par Edward Burroughs, ajouté comme introduction aux œuvres de George Fox, volume 3/8 Le grand mystère de la grande prostituée dévoilée et le royaume de l'Antéchrist révélé. Le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué pour accéder aux renvois dans l'écriture ou aux détails dans les écrits. Lorsque vous avez cliqué vers la Bible en ligne, vous pouvez changer et mettre à jour pour voir la version de la Bible que vous préférez. En utilisant le dictionnaire Webster de 1828 pour aider à traduire des sens de mots devenus obsolètes, cet écrit comporte de légères modifications afin de refléter la langue actuelle et l'usage des mots. Mais dans tous les cas, un grand soin a été pris pour préserver le sens original. À tout le monde à qui ceci pourra parvenir pour être lu, afin qu'il lise avec une bonne intelligence, et qu'ainsi il puisse venir à la connaissance parfaite du fond de la différence entre les prêtres et les professeurs et toutes les sectes de ces nations, et nous que l'on appelle par dérision Quakers, montrant que la controverse de notre part est juste et équitable contre eux tous et que nous avons une cause suffisante pour crier contre eux et pour renier leur ministère, leur église, leur culte et toute leur religion comme n'étant pas dans la puissance. Ceci est aussi une invitation à toutes les sectes et professions de gens à sortir et à éprouver si ce qu'ils tiennent et professent est conforme aux Écritures de vérité, et à le faire en éprouvant tout, par des arguments évidents et solides, et par les meilleures armes spirituelles dont ils disposent, et à mettre de côté toutes ces persécutions et ces procédés injustes, et ces mises au carcan et ces flagellations et ces emprisonnements de nous parce que nous parlons contre leur religion, et qu'ils sortent pour une dispute loyale, pour combattre dans l'esprit. Voici aussi un récit fidèle de notre premier commencement et de notre apparition dans le monde, et des grandes souffrances que nous avons endurées, et comment nous avons été conduits et préservés jusqu'à ce jour. Le Seigneur Dieu éternel, qui est vrai et fidèle, a accompli sa promesse en nous et pour nous, et nous sommes rassemblés hors de la bouche de tous les bergers muets, et hors de la bouche de tous les mercenaires, qui ont fait de nous leur proie, se sont nourris de la graisse et ont dévoré des âmes pour un gain malhonnête. Nous sommes venus au bercail du repos éternel, où Christ Jésus est le souverain berger, et il est le berger et l'évêque de nos âmes, qui nourrit son troupeau du pain vivant qui nous nourrit pour la vie éternelle. Il nous a appelés par son nom, et nous a fait sortir, et il nous fait paître dans de verts pâturages, et nous sommes nourris de la manne cachée, et nous nous couchons à midi avec son troupeau rassemblé. De nations, de parentés, de multitudes et de peuples, nous sommes rachetés pour Dieu, et nous sommes sortis du monde, et de la grande Babylone, et de la Sodome et de l'Égypte spirituelle, où le Seigneur Christ a été et est crucifié, et demeure gisant, mis à mort jusqu'à ce jour. Au-dessus du monde, le Seigneur nous a placés sur la montagne de sa propre maison et demeure, là nous contemplons et ressentons la vie, la gloire et la couronne du monde qui n'a pas de fin, et le monde qui a une fin est vu comme dépassé, et sa couronne et sa gloire sont le marchepied de celui qui règne parmi nous. Quant à tout ce que ce monde périssable produit, que les hommes recherchent, cela est compté comme notre tentation, bien que tous les fils d'Adam recherchent sa gloire, ses richesses, ses couronnes, ses satisfactions. Mais nous sommes de cette naissance qui n'a ni couronne, ni gloire, ni repos sous le soleil, une naissance émise au jour parmi nous, héritière d'un autre royaume et possesseur d'une autre couronne, dont la gloire est dans le Seigneur tout le jour, et il est notre refuge, notre rocher et notre forteresse contre tous nos ennemis, quoi que les méchants prennent pour armes, et quoi que les impies bandent leur arc. Qu'importe que toutes sortes de gens, du prince sur son trône jusqu'au mendiant sur le tas de fumier, s'élèvent contre le peuple méprisé de l'héritage du Seigneur, qui, pour l'amour de son nom, est mis à mort tout le jour. Qu'importe que les sages produisent leurs arguments et que les gouvernants prononcent des jugements iniques contre la semence que Dieu a bénie, qu'importe que les débauchés et les railleurs ouvrent la bouche et que les rapporteurs et fêtards jettent leurs paroles amères comme un déluge contre le reste de la semence de la femme qui s'est depuis longtemps enfuie dans le désert. Qu'importe encore si les docteurs, les prophètes, les anciens, les chefs et les sages du monde s'emploient à prier, à prêcher et à imprimer contre la semence élue de Jacob. Malgré tout cela, bien que ceci soit arrivé, et que l'enfer ait ouvert sa bouche, et que ses flots se déchaînent pour submerger et s'accroître bien davantage, pourtant le roi de justice régnera au milieu de son peuple, et sa présence n'abandonnera pas ses élus. Le Seigneur est avec nous, puissant et redoutable, et le cri d'un roi est au milieu de nous, et la terreur du Tout-Puissant nous couvre, elle va devant nous et nous environne, et le Seigneur accomplit une œuvre sur la terre puissante et merveilleuse. Il rassemble les dispersés, il panse les cœurs brisés, et son peuple demeurera en sécurité, et nul ne l'effrayera, et aucune arme formée contre eux ne prospérera, ni aucune main levée ne prévaudra, car Sion se lèvera de la poussière, ses beaux vêtements seront revêtus. Et le deuil et la tristesse s'enfuiront, et sa lumière s'est levée, qui est éternelle, et le soleil ne se couchera jamais, mais son jour demeurera pour toujours, et la nuit ne couvrira plus son éclat, ni le soleil ne se couchera sur ses demeures. La ville longtemps dévastée sera rebâtie, et la demeure longtemps sans habitants sera de nouveau peuplée, car l'innombrable semence de Jacob sort d'Égypte, qui remplira toute la terre, et la semence d'Ésaü deviendra esclave. Et où êtes-vous rassemblés? Et dans quel but les méchants ont-ils dépensé leur force à s'opposer à ce que le Seigneur est en train d'accomplir? Tous nos ennemis ne seront-ils pas brisés en morceaux? Et le Seigneur ne les réduira-t-il pas en poudre? Ne gâtera-t-il pas leur beauté? Et ne tachera-t-il pas leur orgueil? Ne fera-t-il pas tomber leur couronne? Ne corrompra-t-il pas leur gloire? Ne la tachera-t-il pas du feu de sa colère? Et ne les rendra-t-il pas honteux de leurs voies et de leurs doctrines? Entendez ceci, prêtres, hurlez et lamentez-vous à cause de la misère qui vient sur vous. Le Seigneur vous a mis à nu, vous a dépouillé, et l'on vous voit tel que vous êtes, et l'élu s'est levé au milieu de nous, que vous ne pouvez tromper. Mais hélas, malheur à moi, comme vous avez fait errer le peuple, et comme vous avez conduit les aveugles hors du chemin, et comme la vérité est tombée dans vos rues. Vous avez enduit faussement d'un mortier sans consistance, et vous avez crié paix aux méchants, et condamné les justes, et tout cela a tourmenté l'âme du juste, et maintenant le Seigneur se lèvera, et il s'est levé, et vous ne résisterez pas, et vous n'échapperez pas au coup de sa main, qui viendra sur vous et vous broiera comme une meule, car vous avez fait se réjouir les méchants, et vous avez fait pleurer les justes, et vous avez attristé son cœur, que Dieu n'a pas attristé. Ne vous êtes-vous pas nourri de la graisse, et vêtu de la laine, et les âmes du peuple n'ont-elles pas été affamées, et la maigreur n'est-elle pas venue sur eux tous? Vos plantations sont desséchées, des arbres stériles qui ne portent aucun bon fruit, et votre peuple est comme un désert qui n'est ni cultivé, ni labouré, ni entretenu, et vos troupeaux sont comme des ânes sauvages sur les montagnes, indomptés, aussi rudes que le cheval et le mulet, qui ne connaissent pas le frein. Et maintenant on voit quelle est la fin de votre ministère, et quel fruit il a produit. Le Seigneur l'a remarqué, et a considéré comment vous avez traîné et demeuré oisif, et les nations sont encore comme une terre en jachère qui ne porte pas de fruits. Et les cœurs des hommes restent intacts par manque de la parole de Dieu, et il n'y a chez votre peuple aucun sens saint, vrai et parfait des voies du Seigneur, ni de l'opération de son esprit, mais ils demeurent dans une grande cécité et ignorance, dépourvus de la connaissance de Dieu. Car vous ne les avez pas amenés à entendre sa parole, mais vous avez raconté vos rêves et vos fausses visions, et vous avez parlé des imaginations de vos cœurs, et non de la bouche du Seigneur, vous ne vous êtes pas tenus dans son conseil, vous n'avez pas écouté sa voix, et donc le peuple demeure sans profit. Ce qu'ils savent, et ce que vous savez est naturel, et non par l'esprit du Père, mais, tel des arbres secs, vous n'êtes pas enseignés du Père, et comme des boucs hargneux dans la nature des porcs souillés dans la fange du monde, et dans la nature des chiens et des lions, vous vous dévorez les uns les autres, vous vous mordez les uns les autres, vous vous tuez les uns les autres, chose qui n'était pas dans les églises de Christ. Nous avons une grande controverse avec vous, et cela de la part du Seigneur. Nous vous avons éprouvé, examiné et découvert votre fondement, il n'est pas solide et ne tiendra pas à l'épreuve. Nous avons tiré votre ligne depuis la première origine, nous avons trouvé votre commencement, et nous vous trouvons de cette race dont Christ a prophétisé qu'elle viendrait, qui en tromperait beaucoup, ayant l'habit des brebis mais intérieurement rapace, et que Jean a vu être venu, et être sorti des apôtres et des véritables églises, être sorti de la vérité, être entré dans le monde, et avoir la forme de la piété sans la puissance. Là a commencé la race dans l'apostasie des églises, et quand elles ont apostasié de la vraie foi, alors a surgi votre fausse église originelle, et le monde les a suivies, et tous les habitants de la terre ont adoré la bête, qui a régné pendant tout ce temps d'apostasie, depuis les jours des apôtres. Nous trouvons que votre origine ne remonte pas plus loin que les faux frères et les faux apôtres, qui sont sortis des vrais apôtres, et ont couru après les dons et les récompenses, et ont prêché pour un gain honteux, et par cupidité, ont fait commerce des âmes, cherchant pour eux-mêmes l'argent et le profit. Je dis, nous trouvons que votre fausse église originelle commence là, et que votre ligne ne va pas plus loin, et que votre premier essor n'est jamais allé jusqu'aux vrais apôtres. Vous n'étiez pas, à votre commencement, de leur vie ni de leur naissance, et vous ne pouvez être comptés à partir de leur origine, vous ne leur succédez pas, mais vous succédez véritablement aux faux apôtres et aux faux frères, que Christ a prophétisé de voir venir après ces jours, et que Jean a vu être venu et venir en ces jours. Nous vous trouvons de cette souche et de cette génération, et maintenant vous êtes découverts comme contraires aux vrais apôtres, et accordés aux faux apôtres dans l'appel, dans la pratique, dans l'entretien, et en toutes choses, et la règle du juste jugement est posée sur vous tous, et vous êtes mesurés, et trouvés trop courts, et pesés, et trouvés trop légers. Nous traiterons avec vous en toute vérité dans le jugement. Premièrement, nous soutenons controverse avec vous au sujet de votre appel, de votre ministère, avec lesquels il n'est pas en accord, mais qui est contraire à l'appel des apôtres. Eux furent appelés par la puissance d'en haut et furent faits ministres par le don du Saint-Esprit reçu de Dieu, et leur ministère était un don absolu de Dieu, et non à acheter ni à vendre pour de l'argent, et ils furent oints du Père par son esprit de promesse pour prêcher l'Évangile. Mais votre appel vient des écoles et des collèges, à telle ou telle fin, obtenu par des efforts naturels dans l'étude et de tels arts et sciences, et par des diplômes, après avoir passé tant d'années à étudier des arts naturels et des langues naturelles, voilà votre ordination et votre appel, sans égard pour recevoir ou attendre le don du Saint-Esprit afin d'être fait ministre par lui. Et ceci diffère des apôtres et des vrais ministres, et est égal et conforme aux faux prophètes et aux imposteurs. Deuxièmement, de plus, vous n'êtes pas conforme, mais contraire au vrai ministère et au ministre de Christ dans la pratique, car eux étaient conduits par l'Esprit du Père qui demeurait en eux, et ils prêchaient l'Évangile par l'Esprit, et parlaient selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, et ils parcouraient le monde à travers les nations, convertissant les gens à la connaissance de la vérité. Ce qu'ils avaient manié, goûté, vu et ressenti en eux-mêmes de la parole de vie, ils le déclaraient aux autres, et prêchaient l'Évangile qu'ils n'avaient reçu ni d'un homme ni par un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ en eux. Mais votre pratique n'est pas telle, elle est au contraire, car l'Esprit de ce monde vous conduit, et vous le suivez dans toutes vos œuvres, dans votre prédication, vos prières et tout votre culte en forme et en tradition, ce que vous avez étudié dans des livres et chez de vieux auteurs, vous le prêchez au peuple. Et ce que vous avez noté dans un livre, vous le prêchez à l'aide d'un sablier, et non comme l'Esprit de Dieu vous donne de vous exprimer. Vous recherchez et vous vous renseignez sur de gros revenus, et beaucoup d'argent par an, et là où il y a beaucoup de dîmes et des biens paroissiaux, et autres choses semblables, c'est là et dans un tel lieu que vous allez et vous cherchez à y être ministre. Et là vous demeurez 20 ou 40 ans plus ou moins, selon que vous pouvez vous entendre avec le peuple, et tant qu'il vous donnera assez pour vous contenter et vous entretenir, vous, vos femmes et vos familles, comme vous dites, et vous ne vous souciez pas de savoir si quelqu'un est converti à Dieu par votre prédication. Car vous prêchez les paroles d'autres hommes, en répétant des paroles de la Bible, et ce que vous imaginez que leur les saintes paroles signifient, dans un temps fixe qui vous est imparti, appuyé sur un coussin moelleux, et vous prêchez au peuple pour de l'argent et à prix d'embauche. Telle est votre manière de pratiquer et de faire le ministère dans ces nations. Même Jésus ne prêchait pas ses propres paroles et opinions, « Je ne puis rien faire de moi-même, je juge seulement selon ce que j'entends. » Jean 5 et 30 « Tout ce que je le dis comme le Père me l'a dit. » Jean 12, 49, 50 « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, de son propre chef. Mais il le Fils ne peut faire que ce qu'il voit faire au Père. » Jean 5, 19 « Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. » Jean 7, 18 « Mais les apôtres, ou les ministres de Christ, n'agissaient pas ainsi, mais au contraire. Par vos fruits et vos œuvres, il apparaît que vous n'êtes pas des disciples de cet esprit par lequel Christ et ses ministres étaient conduits, vous n'êtes pas non plus les légitimes successeurs des apôtres, mais par vos fruits et votre pratique, vous montrez que le Seigneur ne vous a jamais envoyé et que Christ ne vous a jamais appelé à son service pour être ses ministres. Car dans toutes vos pratiques et dans toute votre manière de rendre un culte, vous différez et vous n'êtes pas d'accord, mais vous êtes contraires à ce que furent la pratique et le culte des ministres et des églises de Christ au jour des apôtres. Je vous en accuse, au nom et par l'autorité du Seigneur Dieu, et je suis capable de le prouver contre vous face à face, ou bien de montrer autrement que vous n'êtes pas du même esprit, mais contraires aux saints et aux apôtres d'autrefois, et donc pas leurs véritables successeurs, ni de légitimes ministres de Christ, comme cela y sera rendu manifeste à tous les peuples. Troisièmement, vous n'êtes pas d'accord, et vous êtes entièrement contraires, au vrai ministère et aux apôtres quant à votre entretien et à vos gages. Car le salaire que Christ permit à ses ministres était que, dans quelque maison qu'ils entrent, si elle en était digne, ils puissent manger ce qu'on mettrait devant eux, car l'ouvrier, dit-il, est digne de son salaire. Et les apôtres ne mangeaient que du fruit de la vigne qu'ils avaient plantée, et du lait du troupeau qu'ils gardaient, par le don gratuit du peuple, qu'ils avaient engendré à la foi. À ceux à qui ils avaient semé des choses spirituelles, ce n'était qu'une petite chose s'ils moissonnaient leurs choses charnelles, et bien qu'ils acceptassent un don gratuit non sollicité, l'apôtre disait qu'il ne voulait pas rendre l'Évangile de Christ onéreux. Ainsi, les ministres et le ministère de Christ, quant aux gages et aux dons, étaient soutenus et entretenus extérieurement dans le monde. Mais votre pratique et votre entretien ne sont pas tels que Christ l'a dit, mais le contraire, comme cela est pleinement manifesté, car vous voulez qu'on vous promette tant par an en dîme en argent ou en terre paroissiale ou en stipende, et cela de la part d'ivrognes et de jureurs et de gens profanes et mondains, qui ne sont pas des brebis du troupeau de Christ, ni des plants de sa vigne. Vous exigez un pourcentage de chacun d'eux et de chaque homme de votre paroisse, et si quelqu'un, soit par cupidité, soit par bonne conscience, ne peut vous payer, vous l'assignez en justice et le faites jeter en prison pour des gages, vous saisissez les biens en prenant une valeur triple, parfois cinq fois le dommage astérisque, et c'est par la violence, l'injustice et la cruauté que vous êtes entretenu de cette manière, et non comme les vrais ministres et apôtres de Christ, mais d'une façon et d'une manière tout à fait contraire, comme cela est montré. Astérisque, commentaire de l'éditeur du site, comme les Quakers refusaient souvent de payer des amendes pour des accusations injustes, CAD. Le défaut de payer les dîmes à la paroisse locale, allant en prison pour éviter de donner de la crédibilité à ces accusations iniques, le Parlement adopta une loi permettant au prêtre paroissial local de saisir les biens personnels des Quakers pour les amendes et les dîmes en retard, appelant cela « spoiling of goods », pillage de biens, terme que les armées employaient lorsqu'elles dépouillaient des peuples conquis. Marchandises de boutique, meubles de maison, outils agricoles, récoltes, animaux, tout ce qui pouvait être emporté était pris. Si les Quakers n'étaient pas restés unis comme un peuple aimant, partageant généreusement avec tous ceux qui avaient été dépouillés, la vie aurait été presque impossible pour des dizaines de milliers de premiers Quakers, privés de toutes leurs possessions par des prêtres et ministres cupides, muets comme des chiens stupides, qui faisaient la guerre à ceux qui ne mettaient pas de nourriture dans leur bouche. Le livre des Hébreux nous dit que ce même pillage de biens fut subi par des membres de l'Église primitive. Le Seigneur n'ordonne certainement pas ses œuvres de ténèbres, mais il utilise ses persécutions pour conduire beaucoup à la perfection. Quatrièmement. De plus, vous ne suivez pas les apôtres et les vrais ministres de Christ, mais vous leur êtes contraires en doctrine, comme ce volume suivant le manifestera clairement, étant recueilli précisément à cette fin, de votre propre bouche et de vos propres plumes, afin que tous les hommes voient ce que vous êtes, et ce que vous tenez et professez, et cela étant fidèlement exposé et répondu que vous-même et tous les hommes sobres compariez vos doctrines et vos paroles avec les doctrines des apôtres, et ils pourront voir que vous n'êtes pas en accord avec eux mais contraires. Or, amis à vous tous qui vous professez ministres de l'Évangile, je vous déclare ici, au nom et par l'autorité du Seigneur, que nous avons controverse avec vous, et une grande accusation contre vous en toutes ces choses, dans votre appel, dans votre pratique, dans votre entretien et dans vos doctrines, et le Seigneur a ouvert notre bouche, et elle ne peut être fermée pour ne pas déclarer et crier contre vous, comme tel que le Seigneur n'a jamais envoyé, mais qui est contraire à Christ, à ses prophètes et à ses apôtres, dans toutes vos voies et pratiques, et là. Or, lecteur, quiconque lit ce volume suivant, si ton esprit est sobre et ton cœur droit devant Dieu, tu pourras venir à une bonne compréhension du fondement et de la cause de cette grande controverse entre les prêtres et les professeurs de cette nation, et nous que l'on appelle, par dérision, Quakers, car elle n'est pas inconnue des nations. De cette grande dispute et de cette bataille, qui dure depuis quelques années dans cette nation, nul ne peut être ignorant. Que d'emprisonnement, que de persécutions, que de prédications et d'impressions contre nous, et que de rapports et de diffamations ont parcouru cette nation depuis quelques années. Les Quakers, ainsi appelés, ont écrit, parlé et imprimé contre les prêtres, leur culte, leur voie et leur doctrine, et ils ont déclaré contre eux, comme contre des trompeurs et de faux prophètes, et comme contre des gens qui n'ont jamais été envoyés par Dieu. D'un autre côté, ainsi les prêtres, et plus abondamment encore, ont crié contre les Quakers et ont imprimé contre eux, les traitant d'hérétiques, de trompeurs, de sorciers, et de tout le mal qu'ils pouvaient dire. Ces choses n'étant pas inconnues, mais s'étant accomplies publiquement, il sera bon de découvrir à chaque homme le premier fondement et la cause de cette grande crêle, sa matière et son commencement, afin que tous puissent connaître la certitude de ces choses et savoir qu'elles ne sont pas, de notre part, sans bon fondement ni raison suffisante, à savoir que nous avons juste cause d'agir et de lutter contre cette génération de prêtres et de docteurs, et que nous ne faisons rien à la légère ni sans raison suffisante. Il y a maintenant environ 7 ans que le Seigneur nous a suscités dans le nord de l'Angleterre et qu'il a ouvert nos bouches dans son esprit, et ce que nous étions auparavant dans notre religion, notre profession et nos pratiques est bien connu de cette partie du pays. En général, nous étions des hommes de la secte la plus stricte et du plus grand zèle dans l'accomplissement de la justice extérieure, et nous avons fréquenté et prouvé toutes sortes de docteurs, nous avons couru de montagne en montagne et d'homme en homme et d'une forme à une autre. Tels nous étions, pour n'en pas dire davantage sur nous, cherchant le Seigneur et désirant la connaissance de ses voies plus que toute autre chose. Je parle comme quelqu'un qui, dès l'enfance, même âgé de quelques années seulement, a tourné son visage pour chercher et trouver le Sauveur, et qui, plus que la vie, les trésors ou toute couronne mortelle, a recherché de tout son cœur l'unique chose nécessaire, à savoir la connaissance de Dieu. Après notre longue recherche, le Seigneur nous est apparu, et il a révélé sa gloire en nous, et nous a donné de son esprit venu du ciel, et l'a répandu sur nous, et nous a donné de sa sagesse pour nous guider, par quoi nous avons vu tout le monde, l'état véritable des choses, et la condition véritable de l'Église dans son état présent. D'abord, le Seigneur, par sa puissance et sa sagesse, et par la parole par laquelle toutes choses ont été faites, nous a conduits à connaître, comprendre et voir parfaitement que Dieu avait donné à chacun de nous, en particulier une lumière de lui-même, qui brillait dans nos cœurs et nos consciences, lumière dont Christ, son Fils, le Sauveur du monde, a éclairé tout homme. Cette lumière en nous, nous l'avons trouvée suffisante pour nous reprendre et nous convaincre de toute mauvaise action, parole et pensée, et par elle en nous, nous en sommes venus à connaître. Cette lumière nous a donné de discerner entre la vérité et l'erreur, entre toute voie fausse et la voie droite, et elle nous a parfaitement découvert le véritable état de toutes choses, et par elle nous en sommes venus à connaître l'homme, ce qu'il était dans sa création avant la transgression, comment il fut trompé et vaincu par le diable, son état dans la transgression et la désobéissance, et comment il est chassé et banni de la présence du Seigneur, et la tristesse et l'angoisse dans lesquelles il était qu'il doit subir. De plus, par la lumière en nous, nous sommes venus à connaître parfaitement la voie du rétablissement et les moyens par lesquels être rétabli, ainsi que l'état de l'homme lorsqu'il est sorti de la transgression et rétabli. Ces choses nous furent révélées par la lumière au-dedans de nous, que Christ nous avait donnée et dont il nous avait éclairé, ce qu'était l'homme avant la transgression, ce qu'il est dans la transgression, et ce qu'il est lorsqu'il est racheté hors de la transgression. Et comme nos esprits se tournaient, que nos cœurs s'inclinaient vers la lumière qui brillait en chacun de nous, nous en sommes venus à connaître l'état parfait de l'Église, son état avant les jours des apôtres, et aux jours des apôtres, et depuis les jours des apôtres, et nous avons trouvé que son état présent est comme celui d'une femme qui avait jadis été vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds, qui enfanta celui qui devait gouverner les nations, mais elle s'était enfuie dans le désert, et là assise désolée dans le lieu que Dieu avait préparé. Que celui qui a des oreilles entende. Ainsi toutes ces choses concernant l'homme, et concernant les temps et les saisons, et le changement et le renouvellement des temps, et toutes choses qui ont trait au salut, à la rédemption et à la vie éternelle, nécessaires à l'homme pour les connaître, toutes celles-ci nous furent révélées, découvertes et rendues connues par la lumière qui était en nous, dont Christ nous avait éclairés. Nous avons trouvé que cette lumière était un maître suffisant pour nous conduire à Christ, d'où venait cette lumière, et ainsi elle nous a donné de recevoir Christ et d'en témoigner faire l'expérience comme habitant en nous, et par elle, nous sommes entrés dans la nouvelle alliance, pour être faits héritiers de la vie et du salut. En toute chose, nous avons trouvé que la lumière dont nous étions éclairés, qui est Christ, était à elle seule, pleinement suffisante pour conduire à la vie et au salut éternel, et que tous ceux qui reconnaissaient la lumière en eux, dont Christ a éclairé tout homme, n'avaient besoin d'aucun homme pour les enseigner, mais que le Seigneur était leur maître, par sa lumière dans leur propre conscience, et qu'ils recevaient la sainte onction. Ainsi nous avons cessé de suivre les enseignements de tous les hommes, leurs paroles, leurs cultes et leurs temples, ainsi que tous leurs baptêmes et leurs églises, et nous avons cessé de suivre nos propres paroles, professions et pratiques en religion, que nous accomplissions auparavant avec zèle au travers de diverses formes, et nous sommes devenus fous pour l'amour de Christ, afin de devenir véritablement sages. Lumière de Christ en nous, nous avons été conduits hors de toutes les voies fausses et les prédications fausses, et loin des faux ministres, et nous nous réunissions souvent et attendions le Seigneur dans un silence pur, loin de nos propres paroles et de celles de tous les hommes, nous écoutions la voix du Seigneur et sentions sa parole dans nos cœurs brûler et abattre tout ce qui était contraire à Dieu. Et nous obéissions à la lumière de Christ en nous, et suivions les mouvements du pur esprit du Seigneur, et nous prenions la croix contre toutes. Tandis que nous attendions le Seigneur en silence, comme nous le faisions souvent pendant de longues heures ensemble, l'esprit et le cœur tournés vers lui, demeurant stables dans la lumière de Christ au-dedans de nous, à l'écart de toute pensée, émotion charnelle et convoitise, dans notre attente diligente et dans la crainte de son nom, et en prêtant l'oreille à sa parole, nous recevions souvent l'effusion de l'esprit sur nous, et le don du Saint-Esprit éternel de Dieu, comme au jour d'autrefois, et nos cœurs étaient rendus joyeux, nos langues délicieuses. Ainsi les choses profondes de Dieu nous furent révélées, et des choses inexprimables furent connues et manifestées, et la gloire du Père fut révélée, alors nous commençâmes à chanter des louanges au Seigneur Dieu Tout-Puissant, et à l'Agneau pour toujours qui nous avait rachetés pour Dieu, et nous avait fait sortir de la captivité et de la servitude du monde, et avait mis fin au péché et à la mort, et tout cela était par, au travers et dans la lumière de Christ au-dedans de nous. Bien davantage pourrait en être déclaré, de ce qui ne pourrait être cru si c'était raconté, touchant les opérations et manifestations diverses et particulières de l'Esprit éternel qui nous fut donné et révélé en nous. Mais voici la somme, la vie et l'immortalité furent mises en lumière, la puissance d'en haut et la sagesse furent rendues manifestes, et le jour éternel nous apparut, et le soleil joyeux de justice se leva et brilla pour nous et en nous, et nous avons reçu la sainte onction, le Consolateur éternel et l'Enfant de gloire est né, et l'héritier de la promesse a été produit pour régner sur la terre et sur l'enfer et la mort, par quoi nous sommes entrés dans une union, une communion et une alliance éternelle avec le Seigneur Dieu, dont les mystères. Nous avons été relevés de la mort à la vie, et transférés de la puissance de Satan à Dieu, et rassemblés d'entre tous les bergers muets, et hors de toutes les montagnes stériles, dans l'enclos de la paix et du repos éternel. Et le Seigneur a accompli pour nous, et par nous, des choses puissantes et merveilleuses, par son propre bras étendu. Ainsi sommes-nous devenus des disciples de l'Agneau partout où il va, et il nous a appelés à faire la guerre dans la justice pour l'amour de son nom, contre l'enfer et la mort, et contre toutes les puissances des ténèbres, et contre la bête et le faux prophète qui ont trompé les nations. Nous sommes de la semence royale élue, choisie et fidèle, et nous combattons dans la vérité et dans un juste jugement, non avec des armes charnelles, mais par l'épée qui sort de sa bouche, qui tuera les méchants et les mettra en pièces. De cette manière fut notre naissance, ou notre mise au monde, et ainsi le Seigneur nous a choisis et fait une armée redoutable et terrible, devant laquelle les méchants craignent et tremblent. Et notre étendard est la vérité, la justice, la droiture et l'équité, et tous ceux qui viennent à nous doivent s'y attacher et combattre sous cette bannière sans crainte et sans douter, et ils ne seront jamais honteux ni mis en fuite, ils ne seront jamais vaincus par l'enfer ou la mort, ni par les puissances des ténèbres, mais le Seigneur sera leur armure, leur arme et leur défense. Ceux qui suivent l'agneau vaincront et remporteront la victoire sur la bête, sur le dragon et sur les portes de l'enfer, car le Seigneur est avec nous, et qui pourra nous effrayer ? Lui nous ayant ainsi armés de puissance, de force, de sagesse, de domination selon sa pensée et nous ayant appris de lui, et étant enseignés de lui en toutes choses, et lui nous ayant choisi pour son œuvre, et ayant mis son épée dans notre main astérisque, et nous ayant donné une commission parfaite pour aller au dehors en son nom et en son autorité, ayant la parole de sa bouche pour savoir quoi abattre et quoi préserver, et ayant l'évangile éternel à prêcher aux habitants de la terre, et étant commandé en esprit de tout quitter. Astérisque commentaire de l'éditeur du site, concernant, et lui nous ayant choisi pour son œuvre, et ayant mis son épée dans notre main, cela signifie que le Seigneur a donné à ses ministres choisis les paroles à dire immédiatement avant d'ouvrir leur bouche, paroles qui abattent et mettent à mort la méchanceté chez les auditeurs visés, parce que les paroles venant de la bouche du Seigneur, entendues puis aussitôt prononcées par ses ministres, sont plus tranchantes qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Tous les vrais ministres du Seigneur, purifiés par lui, rendus parfaits par lui, autorisés par lui et envoyés par lui, ne prononcent que des paroles venant de la bouche du Seigneur, car ceux qui sont en unité avec Christ ne font qu'une seule bouche. L'arme d'un véritable Fils de Dieu est l'épée de l'Esprit, des paroles à prononcer telles qu'elles sont entendues de la bouche du Seigneur. Mais les fils illégitimes, par présomption, ne peuvent que citer la Bible et parler depuis leur esprit charnel, cherchant leur propre gloire. Car lorsque nous regardions au loin et contemplions le monde, voici, ce n'était que ténèbres, et comme un désert, et désolé, et stérile de bons fruits. Et la mort régnait sur les hommes, et aucun bon fruit n'était produit pour Dieu, mais nous ne voyions que des feuilles sur chaque âme. Tous les hommes et tous les peuples avaient été enivrés du vin des prostitutions, et ils avaient bu la coupe de la prostituée, et commettaient la fornication avec la grande prostituée, et elle régnait sur les rois et les peuples de la terre. L'Antéchrist était établi dans le temple de Dieu, régnant sur tous, ayant soumis les nations à son pouvoir, et établit son gouvernement sur tous pendant de nombreux siècles. Oui, depuis les jours des apôtres et des véritables églises il a régné, tandis que la femme s'était enfuie dans le désert, et que l'enfant mâle avait été enlevé vers Dieu. Christ a dit que l'Antéchrist viendrait, de faux prophètes et revêtirait la peau de brebis, et qu'au-dedans il serait un loup ravisseur. Et Jean a vu que l'Antéchrist était venu de son temps, et qu'alors il était sorti de la véritable Église, et était allé dans le monde, et avait séduit le monde. Et depuis lors son royaume a régné sur les nations, car alors il commença à s'exalter, et voilà 1600 ans que cela dure. Durant tout ce temps l'Antéchrist a eu la peau de brebis, mais au-dedans il est ravisseur, et a dominé et régné. Cela, nous l'avons vu et l'avons discerné au tout temps de notre naissance et de notre mise au monde, et nous avons vu les nations comme un désert inculte, et les cœurs des hommes comme une jachère, non brisée, ni labourée ni ensemencée de la bonne semence du royaume de Dieu. De sorte que nous avons vu tous les états et tous les ordres d'hommes corrompus et dégénérés par rapport à ce qu'ils devraient être et par rapport à ce que Dieu les avait jadis ordonnés. Quant au ministère d'abord, nous le regardons d'un œil simple, dans la lumière de l'Esprit de Dieu qui nous avait oint. Nous l'avons vu clairement alors qu'auparavant nous y trébuchions avec beaucoup de doute, pensant depuis bien des années que ce n'était pas le ministère parfait de Christ, n'être ni de Christ, ni envoyé par lui, ni porteur de la commission, de la puissance et de l'autorité de Christ, comme l'était son ministère au jour des véritables églises, mais en toute chose quant à l'appel, la pratique, l'entretien et tout le reste. De même, nous l'avons véritablement vu quant à l'appel, à la pratique et à l'entretien, et en toute chose identique dans ses fruits et ses effets aux faux ministères, et aux faux prophètes, et aux faux apôtres, et aux séducteurs d'autrefois. Ceci je l'atteste, et je puis le prouver dans l'esprit et l'autorité du Seigneur, le ministère public, tel qu'il se présente maintenant de manière générale, a totalement dégénéré de ce qu'était autrefois le véritable ministère de Christ et diffère, et est contraire en toute chose à ce qu'étaient les ministres de Christ, et s'accorde, et est égal en toute chose à ce qu'étaient les faux prophètes et les séducteurs à travers tous les âges. Je lui impute cela, en face et à la vue de tous les hommes à qui ceci pourra parvenir, car c'est cela que nous avons vu à son sujet, au commencement, et lors de notre première assurance. Quant aux autres lieux, ordres d'hommes et vocations, nous les avons vus aussi corrompus et dégénérés, et le mal et l'iniquité abondant parmi toutes sortes de gens, et l'aveuglement et les ténèbres couvraient la face de la terre et du monde, et tous les peuples étaient dans leur transgression, rendant vaine la loi de Dieu, et c'était le temps pour le Seigneur d'agir, et de se lever pour se soulager de ses adversaires. Quant à toutes les églises ainsi nommées, et aux professions et assemblées de gens, nous vous avons vu tous dans l'apostasie et la dégénérescence d'avec la véritable Église, n'étant pas rassemblée par l'Esprit du Seigneur, ni oint par lui, comme l'ont toujours été les véritables membres de Christ, mais n'être que dans une forme, et dans des formes de justice sans la puissance, et dans des imitations sans vie ni connaissance parfaite. Ainsi, toutes les pratiques de religion que nous avons vues étaient sans puissance ni vie, quoique certains y eussent une sincérité, et un zèle et un désir vers le Seigneur. Pourtant, tous les gens se trompaient dans leur jugement, et nul n'était guidé dans son jugement par l'Esprit éternel. Et l'erreur de jugement rendait leur zèle aveugle, et leurs œuvres de justice non agréées, bien qu'accomplies avec une certaine sincérité et un zèle, parce qu'ils n'étaient pas guidés dans la pratique, ni conduits dans le jugement par l'Esprit du Seigneur, qui seul conduit dans toute la vérité, et nul n'est dans la vérité sinon celui qui n'est conduit que par lui. Ainsi, nous avons vu toute profession naître que comme des couvertures de feuilles de figuier, tandis que la nature de la transgression demeurait sans être condamnée ni crucifiée. Nous avons alors vu aussi, non seulement que l'accomplissement et la pratique dans l'état d'Église et dans les ordres religieux étaient corrompus, mais aussi que le gouvernement, la magistrature et toute chose dans l'état civil n'étaient pas justes aux yeux du Seigneur, ni comme le Seigneur l'exigeait, ni comme il les avait ordonnés au commencement. Car le gouvernement, nous le savons tel qu'ordonné par Dieu, est destiné à punir, limiter et effrayer tous les malfaiteurs et à préserver et défendre tous ceux qui font le bien. Et les consciences des hommes doivent être laissées libres pour n'être gouvernées que par le Seigneur seul et guidées par son esprit. Et la puissance extérieure, les magistrats civils et les lois ainsi nommées, ne doivent pas être seigneurs ni maîtres dans les consciences des hommes, ni au-dessus d'elles. Mais nous avons vu comment l'injustice et l'iniquité, le péché et la méchanceté étaient fortifiés et encouragés dans le gouvernement et par ceux qui étaient en autorité, et comment l'exercice d'une bonne conscience dans la crainte de Dieu était abusé, de sorte qu'ils se trouvaient renversés par rapport à ce qu'ils devaient être, ceux qui faisaient le bien étaient punis, et limités comme des transgresseurs, et les malfaiteurs étaient laissés libres, et nul ne leur faisait peur. De sorte que nous pouvions véritablement crier, « La vérité est tombée dans les rues, et la justice et le vrai jugement ont été repoussés en arrière, et l'équité n'avait pas de place pour entrer, et les innocents étaient dévorés faute d'un jugement vrai et juste, et les nécessiteuses étaient dépouillées et faits proie. » Ainsi cela fut-il ordonné, car à peine avions-nous ouvert la bouche que les magistrats commencèrent à nous jeter en prison, et à exercer une grande injustice contre nous, et devinrent oppresseurs des innocents, et posèrent sur nous de lourds fardeaux injustes, lourds à porter, et la vraie justice et le vrai jugement furent négligés, et un jugement inique fut produit, et le bon gouvernement fut abusé, et les hommes en autorité n'étaient pas gouvernés par le Seigneur, ni ne gouvernaient pour le Seigneur parmi les hommes. Ainsi cela nous advint-il, par la corruption et la dégénérescence du gouvernement et des magistrats, que nous avons vu tel, comme cela s'accomplissait par eux, à savoir, non pas comme le Seigneur l'exigeait, ni comme il l'avait ordonné au commencement, mais tout au contraire. Cela, nous l'avons vu au commencement, lorsque l'Esprit du Seigneur fut répandu sur nous, et qu'une puissance d'en haut fut révélée pour déclarer contre toutes les abominations de la terre, et pour faire la guerre à toute corruption, dans tous les ordres, lieux et hommes. Alors, étant préparés par le Seigneur, et ayant reçu une puissance d'en haut, nous sortîmes, comme le Seigneur nous l'avait commandé, laissant derrière nous toutes nos relations et toutes les choses du monde, afin d'accomplir l'œuvre du Seigneur à laquelle il nous avait appelés. Nous ne consultâmes ni la chair ni le sang, ni aucune créature, ni ne prîmes conseil d'homme, mais du Seigneur seul, lui qui éleva nos têtes au-dessus du monde, et au-dessus de toute crainte et de tous doutes. Il était avec nous en puissance et en domination, au-dessus de tout ce qui s'opposait à nous, ce qui était grand et puissant, et il nous donna pouvoir sur tout cela pour lier les rois avec des chaînes et les nobles avec des entraves de fer, et c'est l'honneur des saints. Nous sonnions la parole du Seigneur et n'épargnions point et faisions entendre les sourds, voir les aveugles et réveiller le cœur endurci, et la crainte du Seigneur allait devant nous et derrière nous, et la terreur saisissait nos ennemis. Avant tout, nos bouches furent ouvertes et nos esprits remplis d'indignation contre les prêtres et les docteurs. Avec eux et contre nous commençâmes d'abord à faire la guerre, comme étant les sources de l'égarement du peuple, des guides aveugles qui conduisaient les aveugles dans le fossé, la fontaine de toute méchanceté abondant dans les nations, et comme étant l'issue de la profanation. Car de la profanation est sortie dans toutes les nations, et contre nous crions à haute voix, étant délivrés de leur bouche qui avait fait de nous une proie, comme ils le font de tous ceux qui suivent leur voie. Dans les églises à clocher, nous les visitions souvent, et sur les marchés et en d'autres lieux, selon que le Seigneur nous mouvait et nous ouvrait la voie, leur montrant à eux et à tout leur peuple qu'ils n'étaient pas des ministres légitimes de Christ envoyés par lui, mais qu'ils étaient des séducteurs et des antéchrists, et de ceux que le Seigneur n'avait jamais envoyés. Nous n'épargnions pas, publiquement et en tout temps, de prononcer les jugements du Seigneur contre eux et leur voie, et contre leurs églises, et leurs cultes, et leurs pratiques, comme n'étant pas de Dieu, ni commandés par lui, et par lesquels ils trompaient le monde. Ce fut notre premier travail, celui que nous entreprîmes, battre les séducteurs et les dévoiler, afin que tout le peuple voie leur honte, et se détourne d'eux, et reçoive la connaissance de la vérité, afin d'être sauvés. Nous avons fait cela non sans grande opposition ni danger. Oui, souvent nos vies furent en danger par les coups, les mauvais traitements, les punitions, les traînements, les jets par-dessus des murs, les coups de bâton et de gourdin, et les coups qui nous abattaient à terre, outre les reproches, les mépris, les injures, les huées, les moqueries, les calomnies, et tous les mauvais traitements que des mains et des langues mauvaises pouvaient imaginer ou commettre. Souvent, on nous conduisait devant les magistrats, avec de graves menaces. Parfois, on nous mettait au pilori, on nous fouettait, souvent on nous emprisonnait, et l'on usait contre nous de nombreuses duretés, le pire que des langues ou des mains pouvaient exécuter, en nous laissant la vie. De tout cela, tous les pays du Nord peuvent témoigner, et toutes ces choses sont supportées et souffertes de la part du peuple et des gouvernants, à cause de notre fidélité au Seigneur, et pour avoir dénoncé les séducteurs. Car rien sinon la main du Seigneur et sa puissance n'aurait pu nous préserver et nous faire traverser tout cela. Et ce n'est pas pour quelque récompense extérieure ou quelque avantage pour nous-mêmes, quel qu'il soit, que nous nous serions exposés à cette violence et à ces souffrances et dangers qui nous arrivaient chaque jour. Mais le Seigneur fut notre récompense infiniment grande au travers de toutes ces choses, et nous garda dans le creux de sa main, et sous l'ombre de ses ailes, et nous donna, en esprit, la domination sur tous nos ennemis, et les soumit devant nous. Bien que les gouvernants et le peuple fussent ligués contre nous, et qu'ils exécutassent sur nous leur injustice et leur violence, pourtant le Seigneur nous fit prospérer, et croître extraordinairement en force, en sagesse et en nombre, et le cœur du peuple s'inclinait vers nous, et le témoignage de Dieu en plusieurs s'éveillait pour nous, car c'est à cela dans toutes les consciences, par nos paroles et nos souffrances, et nos voix, que nous nous recommandions pour être connus et approuvés. Au commencement, nous n'étions que peu nombreux, seulement quelques-uns ainsi conduits et traités, et qui avaient reçu la puissance d'en haut dans une telle mesure, et pour une telle œuvre. À peine le Seigneur s'était-il manifesté à nous et avec nous, que le diable et sa puissance se levèrent contre nous pour nous détruire, et cela agissait dans les gouvernants, les prêtres et le peuple, et toutes les voies et moyens inventés par le diable, que ses serviteurs pouvaient exécuter, furent mis en œuvre pour éteindre l'œuvre du Seigneur, et arrêter notre marche dans ce à quoi nous étions appelés. Si vous vouliez connaître parfaitement, comme nous l'avons parfaitement constaté, la ruse, la politique et la méchanceté du diable, comment vaincre ce nouveau-né, et comment déraciner à jamais cette plante qui venait de germer, cela vous ferait admirer et vous étonner. Tous les prêtres et les gouvernants étaient en tumulte. Les prêtres présentèrent des pétitions aux magistrats, couraient de l'une à l'autre session et juridiction, prenaient de mauvais serments, et calomniaient les justes par des mensonges et des reproches, à dessein d'exciter tout le peuple contre nous. Les magistrats publièrent des mandats pour l'arrestation de certains, donnèrent ordre de dissoudre nos réunions, et que nous ne nous réunissions pas la nuit, et que de tels hommes ne puissent se déplacer, et de tels troubles et une telle opposition furent suscités contre nous, qu'il est difficile de les exprimer ou de les décrire. Il y eut des tumultes dans les églises à clocher, des tumultes sur les marchés, et souvent des traînements devant les magistrats. On nous maltraitait, menaçait, calomniait, et on faisait et disait contre nous toutes sortes de mal, et une grande injustice, cruauté et oppression furent exercées envers nous partout où nous allions, et tout cela par le moyen des prêtres, qui ne s'abstenaient pas de tramer et de concevoir du mal contre nous, et sollicitaient chaque jour les magistrats pour la persécution. Ils prêchaient dans leur chair, priant contre nous, et mettaient à part des jours pour chercher leur Dieu contre nous, criant sans cesse, en public et en privé, hérésie, erreur et blasphème, et que nous étions des imposteurs, des sorciers et des séducteurs, et choses semblables, le pire qu'ils pouvaient dire et imaginer, afin d'exciter le cœur du peuple contre nous. Ils couraient souvent aux assises, aux sessions et aux tribunaux pour se plaindre, et informer contre nous par de faux serments, et par eux des contrées entières furent dans la rage et la folie, gouvernants et peuples nous emprisonnant souvent, nous maltraitant et nous résistant avec violence, nous bannissant des villes, nous chassant de nos auberges, et menaçant souvent de brûler les maisons au-dessus de nos têtes, toute la compagnie des gens grossiers d'une ville se rassemblant souvent, et cernant une maison ou une auberge où nous étions entrés pour loger, dans nos voyages. Nous fûmes souvent exposés à des voyages et des trajets difficiles et pénibles, nous livrant à la croix, pour la prendre contre tout ce qui était terrestre, souvent buvant de l'eau et couchant sur la paille dans des granges, après une rude journée de marche, et pourtant, au travers de toutes ces choses, la puissance et la présence du Seigneur étaient avec nous, et nous avancions avec beaucoup d'assurance et de fidélité, avec courage, sans peur ni doute. Souvent nos vies furent en danger de bien des manières, dans les tumultes, par des hommes mauvais, sur les marchés et dans les églises à clocher, et aussi dans les voyages par des brigands, et de toute manière nous étions exposés à des dangers et des périls, mais à travers tout, et par-dessus tout, nous avons été portés, et nous sommes préservés jusqu'à ce jour. C'est ainsi que cela se passa à notre égard. Bien plus pourrait être dit, mais ceux-ci déclarent brièvement comment nous fûmes traités et comment on procéda envers nous par les prêtres, les gouvernants et le peuple, à travers tous les comtés du nord de l'Angleterre, lors de nos premières sorties, comtés par lesquels nous voyageâmes d'abord en sortant du Westmoreland, à travers le Cumberland, le Northumberland, et juste dans certaines parties de l'Écosse, le Durham, le Yorkshire, le Lancashire, le Cheshire, etc. Dans tous ces comtés, nous eûmes beaucoup d'opposition, d'extrêmes souffrances et de cruels traitements de la part d'hommes de toutes sortes. Chaque geôle peut témoigner, dans chaque comté, combien rarement l'une d'elles fut sans que quelques-uns de nous, ou de nos amis, y fussent emprisonnés durant ces 6 années. Et il n'y a guère une église à clocher ou un marché dans tous ces comtés qui ne puisse témoigner de quel coup meurtrissant, de quel choc au corps, de quel traînement devant les tribunaux, de quel mauvais traitement et péril nous avons souffert et enduré. Il n'y a pas un prêtre dans tous ces comtés qui puisse se disculper de haine et de malice, d'envie contre nous, et d'avoir fait du mal en parole et en acte, ou en pensée, ou en désir contre nous. Ni guère un juge de paix, ni aucun officier, ne peut être excusé dans tous ces comtés d'avoir comploté et exercé l'injustice contre nous, et menacé et commis des cruautés contre nous. J'en appelle au ciel et à la terre, et à la lumière dans la conscience de chaque homme, et je fais appel à ceux-là en toutes sortes de gens, que de la part de toutes sortes nous avons souffert le mal, et des paroles et des actes injustes. Que le témoignage de Dieu, dans les consciences de tous les hommes du Nord rende témoignage des traitements et des cruautés que nous avons souffert, de la manière dont on nous a traités, et aussi de notre patience et de notre innocence sous tout ce qu'ils nous ont fait. Commentaire de l'éditeur du site. La chrétienté d'Angleterre a emprisonné plus de 15 000 Quakers. Plus de 869 Quakers sont morts en prison. D'autres sont morts après que des foules chrétiennes les ont attaqués dans leurs réunions silencieuses, et des dizaines de milliers de Quakers ont été dépouillés de leurs biens. Ils furent punis pour avoir refusé de prêter serment, comme l'interdisent les commandements de Jésus et de Jacques, pour ne pas avoir ôté leur chapeau au tribunal, pour avoir voyagé le jour du sabbat, pour avoir tenu des réunions non conformes à la liturgie épiscopale, et pour avoir refusé de payer la dîme à la secte chrétienne de leur voisinage, même lorsqu'ils ne fréquentaient pas cette secte. Les puritains d'Amérique, qui croyaient en la Bible, emprisonnèrent les Quakers, les fouettèrent brutalement, leur coupèrent les oreilles, et en pendirent 4, dont une femme. La bête reçut le pouvoir de vaincre les saints, Actes 13:7. Pourtant les Quakers ne firent jamais de mal à personne, et prièrent pour leurs persécuteurs, même en mourant. Des brebis tuent-elles les loups? Non. Les loups tuent les brebis, et ainsi les loups de la chrétienté ont tué les brebis Quakers du Christ, comme Jésus l'avait prédit. Oui, l'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre un culte à Dieu. Jean 16:2. La chrétienté était devenue, et est encore, la prostituée de Babylone, ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Quand la véritable Église du Christ sortira du désert pour être de nouveau vue et entendue, la chrétienté invoquera ce passage de l'Écriture et prétendra que l'Esprit du Christ est l'Esprit de Satan en peau de brebis. Et malgré l'Écriture déclarant clairement il y a 2000 ans que le temps de la fin est et que des antéchrists avaient paru, la chrétienté dira de nouveau que c'est le temps de la fin et que l'antéchrist vient d'apparaître. La chrétienté persécutera de nouveau la véritable Église du Christ, mais cette fois, lorsque les persécutions cesseront, les saints seront vengés, Babylone tombera, tout péché sera purgé de la terre, et selon la parole du Seigneur au-dedans, et les saints s'étendront et peupleront toute la face de la terre. Mais malgré tout ce qui fut commis contre nous, et dit plusieurs centaines de personnes honnêtes et raisonnables nous reconnurent, et aussi beaucoup de personnes grossières et impies furent converties à la vérité. Je dis que plusieurs centaines, dans tous ces comtés en 2 ans, furent amenées à la connaissance du Seigneur et à nous reconnaître. Pendant tout ce temps, nous avons travaillé et voyagé avec patience, nous livrant à vivre ou à mourir, et à toutes sortes de souffrances et de reproches, et d'épreuves difficiles, afin d'accomplir fidèlement ce à quoi nous étions appelés. Des souffrances au dehors, de la part d'ennemis déclarés et de nos propres parents et relations, et des souffrances au dedans, à cause de la semence, tout cela nous rendit bien familiers des afflictions, et pourtant dans nos épreuves et nos afflictions, le Seigneur ne nous abandonna jamais, mais sa sagesse, son amour, sa vie et sa présence augmentèrent en nous et avec nous. Puis, en l'année 1654, poussés par le Seigneur, nous nous répandîmes vers le sud et entrâmes dans ces régions méridionales. Et les premiers d'entre nous arrivèrent dans cette ville de Londres, au 5e mois de cette année-là, et travaillèrent à l'œuvre de l'Évangile, dans des souffrances et des oppressions continuelles de diverses manières. Et nous fûmes opprimés et contredits par les sages, et par les savants, et traités avec reproche et mépris par tous les docteurs orgueilleux et hautains, et nous fûmes réduits à néant et rejetés par les grosses bêtes du sud. Il est bien connu de milliers dans cette ville, et dans le pays du Sud, quelle opposition nous avons eue de la part de toutes sortes de gens, opposés dans nos propres réunions, et raillés et calomniés par des langues envieuses et injurieuses, affrontés publiquement et en privé par tous les plus sages de la ville et du pays, défiés, invités et entraînés à des disputes par les grands prêtres et les membres d'églises ainsi nommés, et écrits contre, et imprimés contre, par les principaux hommes réputés sages et religieux. quelle secte et quel sage parmi ceux qui font profession, et parmi les plus zélés dans les pratiques de religion ainsi nommées, ne nous ont pas, à un moment ou à un autre, entourés et affrontés dans de hautes disputes et controverses. Lesquels ne se sont pas opposés à nous en face, et n'ont pas combattu notre doctrine et nos pratiques, nous niant et nous résistant entièrement, criant contre nous que nous étions des imposteurs, des illusionneurs, des hérétiques et des blasphémateurs, et autres choses semblables, et que nos doctrines étaient trompeuses et erreurs et factieuses et que sais-je encore, et que nos pratiques étaient destructrices pour les hommes, les lois et le gouvernement. Ces choses, dans leur pire acception, ont été dites contre nous sans cesse, par les plus sages et les hommes de plus grand talent et les plus religieux faussement ainsi estimés, durant ces années certaines, dans le sud comme dans le nord. En outre, quelles pertes avons-nous subies autrement dans le sud, par les coups, les violences et les mauvais traitements, les calomnies et les faux reproches, les traînements devant les magistrats, les emprisonnements, et tous les traitements semblables de la part des prêtres, des gouvernants et du peuple. Oui, les mêmes dures manières de faire et la cruauté de toutes sortes de gens, nous les avons souffertes, et les souffrons chaque jour, comme nous les avons souffertes dans le nord. À tel point que nous sommes maintenant accoutumés au joug, et bien familiers des peines et des afflictions venant de toutes sortes de gens. Si le Seigneur n'était pas de notre côté, nos ennemis nous engloutiraient vite, et depuis longtemps nous aurions été dévorés par les dents des impies. Ainsi puis-je maintenant t'appeler à témoigner toutes les geôles et prisons du sud, comme du nord, et tous les magistrats, et juges, et gouvernants, et tous les officiers de la loi, de quelles souffrances nous avons été chargés, et quels traitements cruels et rudes nous avons endurés, et quelles injustices, et quels jugements inégaux et faux ont été exécutés contre nous en l'espace de ces 5 ans. Quelle prison peut paraître exempte, où quelques-uns de nous n'aient pas souffert injustement la perte de leur liberté, quel juge de paix, ou autre officier, du juge au constable, peut se déclarer sans faute en cette affaire, et n'a pas eu la main dans nos souffrances injustes. Au témoignage de Dieu en tous les hommes de toutes sortes, dans toute cette nation et quelques autres, j'en appelle au sujet de cette affaire, comment on a procédé envers nous, et ce que nous avons enduré dans nos personnes et dans nos noms, et combien d'actes et de paroles de cruauté et d'injustice nous avons portés et souffert. Ces prêtres ont été comme la fontaine et la cause de tout cela, et les premiers en toute cette iniquité et injustice, par tout ce qu'ils pouvaient faire pour irriter les gouvernants et le peuple contre nous, en prêchant, en priant, en écrivant et en imprimant durant l'espace de ces 7 années. Malgré tout cela, la puissante puissance et la présence du Seigneur ont été avec nous, et nous ont préservés de grands et nombreux dangers, et nous ont fait traverser les épreuves, les perplexités et les souffrances, et non seulement cela, mais il nous a augmentés en nombre, de sorte que des milliers et des dizaines de milliers peuvent nous reconnaître, nous est la vérité dont nous rendons témoignage et dans laquelle nous vivons. Car les yeux de tout le peuple commencent à s'ouvrir, et l'oreille sourde est débouchée, et la voix de la vie éternelle est rendue manifeste, et le Seigneur rassemble son troupeau, qui a été dispersé dans le jour nuageux et sombre, tandis que ces faux pasteurs oisifs, ces prêtres et docteurs, je veux dire, se sont nourris de la graisse, et se sont vêtus de la laine, et se sont couchés dans la torpeur, et n'ont pas rassemblé le troupeau ni l'ont nourri, mais l'ont dispersé et chassé, et avec force et cruauté ils l'ont dominé sur l'héritage du Seigneur. Malheur, malheur, à ces pasteurs, dit le Seigneur Dieu, ils seront confondus et couverts de honte à perpétuité, et ils seront renversés et ne seront plus jamais rebâtis, et le Seigneur les arrachera par les racines, et ils ne seront jamais plus replantés. Outre toutes leurs pétitions aux magistrats contre nous, leurs prédications et leurs prières contre nous, et tout le mal et la méchanceté en actes, en paroles et en désirs, produits contre nous de temps à autre, ici lecteur sobre, tu as un catalogue et le nombre entier des livres imprimés et écrits contre nous, et une abondance de leurs doctrines proférées contre nous et en opposition à nous, recueillies dans ce volume en un abrégé avec nos réponses, et si ton cœur et ton esprit sont simples, tu peux ainsi comprendre en mesure la différence. Si tu es impartial en cette affaire, et simple dans cette recherche et ce jugement, je ne doute pas que tu te satisferas en grande mesure, et que tu seras résolu au sujet des prêtres et des professants d'Angleterre, et de nous qu'on appelle Quakers. Quand tu auras fait cela, reconnais-les et nie-les, ou reconnais-nous et nie-nous, selon que le Seigneur te persuadera, car tu peux pleinement percevoir que nous différons en doctrines et en principes, et que l'un tu dois le justifier, et l'autre tu dois le condamner, l'un étant contraire à l'autre en principe. Je souhaite aussi que tu nous mesures, et que tu nous compares dans la vie et la conduite, et que tu juges véritablement si, ou nous suivons Christ et ses apôtres dans la pratique et la conduite. En toute chose mets-nous, eux et nous, à la règle du vrai jugement, et juge en conséquence avec un cœur droit, car sache ceci, il n'y a aucun principe que nous tenons, ni aucune œuvre que nous pratiquons dans notre religion et notre culte, que nous ne soyons disposés, et ne désirions pleinement, avoir amené à la barre de la vraie justice, et dans chaque point de principe et de pratique, examiné et éprouvé à fond. Que chacun de nous soit jugé en vérité et en équité, si ce sont eux ou nous qui sommes de la vraie religion, et de la vraie foi et du vrai culte de Dieu, tels qu'étaient ceux des apôtres, et lequel de nous est dans une mauvaise voie, et dans une fausse religion, une fausse foi et un faux culte. Sur cela nous sommes prêts à entrer en litige avec eux, à la vue de toute la nation, s'ils veulent s'avancer au jugement si ce qui a déjà été produit par eux contre nous, et par nous contre eux durant ces 7 années dans les disputes dans l'imprimé et autrement, n'est pas suffisant pour que tout le peuple nous éprouve et nous juge pour savoir si ou nous sommes dans le vrai. Maintenant j'en appelle à ce qui est de Dieu dans les consciences de tous les gens de la nation, pour juger entre les prêtres et les professants, et toutes les sectes et nous. Vous avez entendu leur doctrine, et vous avez entendu quelque chose des nôtres, vous avez vu leur conduite, et vous avez vu quelque chose de la nôtre, vous les avez entendus longtemps, et quelque chose de nous vous a été entendu pour un peu de temps, et maintenant rendez votre témoignage, n'est-ce pas avec eux comme nous l'avons dit. Vos prêtres ne marchent-ils pas sur les traces des faux prophètes et des séducteurs, et ne cherchent-ils pas leur gain de leur quartier, comme ceux contre lesquels Esaïe a crié? Ne prêchent-ils pas pour un salaire et ne font-ils pas de divination pour de l'argent, comme ceux contre lesquels Michée a crié? Ne sont-ils pas tels que vous n'en avez tiré aucun profit, comme Jérémie a crié, que ce qui est de Dieu en vous réponde à ces choses? Ne sont-ils pas des hommes orgueilleux, des hommes cupides, des hommes envieux, des hommes impétueux, des hommes hautains, et adonnés aux gains honteux? Ne sont-ils pas de ceux qui, par cupidité, font commerce des âmes, et qui, par de belles paroles et des discours flatteurs, séduisent le cœur des simples, tels que Paul et Pierre les dénoncent? Ne sont-ils pas tels que les vrais prophètes, Christ et ses apôtres ont dénoncé? Ne produisent-ils pas les mêmes fruits que les faux prophètes et les faux apôtres? Je laisse vos consciences en juger, comparez-les et mesurez-les à la règle du vrai jugement. Si vous ne fermez pas les yeux, vous pouvez voir que c'est ainsi. Les avons-nous accusés faussement, ou n'avons-nous pas dit la vérité à leur sujet? Nous avons dit qu'ils sont de faux ministres et des séducteurs, et non de vrais ministres de Christ, et n'est-ce pas ainsi que la lumière dans vos consciences réponde? Nous avons dit qu'ils ont couru, et n'ont jamais été envoyés, et qu'ils n'ont nullement profité au peuple, et n'est-ce pas ainsi? J'en appelle au témoignage de Dieu en vous, et que cela atteste que nous n'avons parlé que la vérité. Examinez et éprouvez en toutes choses ce dont nous les avons chargés, ne sont-ils pas coupables en toutes choses de ce dont nous les avons accusés? Que le témoignage de Dieu en vous en rende témoignage, que jugez-vous d'eux? Ne sont-ils pas de cette race dont Christ a dit qu'elle viendrait, et qu'elle serait des loups en peau de brebis, et qu'elle séduirait beaucoup de gens, et que Jean a vu être venu en son temps, et que le monde entier suivit? Ne sont-ils pas dans la nature des loups, dévorant et déchirant les agneaux de Christ? Ne déchirent-ils pas les gens en faisant emprisonner leurs corps, et en faisant piller leurs biens, bien saisis par les tribunaux pour refus de prêter serment? Ne séduisent-ils pas beaucoup? Pourtant ils ont la peau de brebis, les paroles des saints et leurs pratiques, mais au-dedans ne sont-ils pas ravisseurs? Le monde ne les suit-il pas? Et le monde n'a-t-il pas couru après eux durant de nombreux siècles, et n'en est-il pas ainsi d'eux? Ont-ils reçu le don du Saint-Esprit, ou ne sont-ils pas faits ministres par la volonté de l'homme, et non par la volonté de Dieu? Ne diffèrent-ils pas, quant à l'appel, la pratique, l'entretien, et quant aux fruits et aux effets, des vrais ministres et des vrais apôtres? Ne s'accordent-ils pas avec les faux prophètes, les faux ministres et les séducteurs, quant à leur appel, leur pratique, leur entretien, leurs fruits et leurs effets? Sondez les Écritures, et mesurez-les à cette règle, puis que le témoin dans vos consciences juge et réponde. Ne préparent-ils pas la guerre contre ceux qui ne mettent pas dans leur bouche? Ne se nourrissent-ils pas de la graisse, et ne se vêtent-ils pas de la laine? N'oppriment-ils pas la nation et la création? Et ne sont-ils pas de ceux dont l'appel, les pratiques, l'entretien, et tout le ministère dépendent de être issus de la papauté? Tout cela n'a-t-il pas le goût de ne ressemble-t-il pas à la papauté? Et les parties principales et essentielles n'en sont-elles pas ordonnées par le pape? Cela peut être pleinement rendu manifeste. Tous les professants et toutes les sectes ne sont-ils pas tels qu'ils ont la forme mais sont sans la puissance de la piété? Les gens ne sont-ils pas encore cupides et terrestres, attachés au monde, orgueilleux et vains? Même ceux qui professent la religion et être un peuple séparé, les professants ne sont-ils pas aussi cupides et orgueilleux que ceux qui ne professent pas? Ne sont-ils pas attachés au monde, et cela ne montre-t-il pas qu'ils ne sont pas changés ni transportés, mais que la mort règne parmi eux? N'est-il pas manifeste qu'ils ont adopté la forme des paroles et des pratiques des apôtres et de Christ, et qu'ils sont sans la vie, et non guidés par l'Esprit de Christ comme l'étaient les apôtres dans leurs prières et leurs prédications? Vos âmes ne sont-elles pas maigres et affamées? Je parle au témoignage de Dieu en vous tous, qui peut attester que beaucoup de gens ont une apparence de religion sans vie, et dès lors, n'avons-nous pas dit la vérité d'eux? Dans ce que nous avons dit, au jour du jugement vous en répondrez. Quant aux Quakers, qu'en dites-vous? Vous avez vu leur conduite, il y a peu de villes où quelques-uns d'entre eux ne soient venus et ne soient parmi vous. Ne craignent-ils pas Dieu? Ne marchent-ils pas justement et fidèlement parmi leurs voisins? Ne disent-ils pas la vérité? Et ne font-ils pas la vérité en toutes choses, ne faisant à tous rien d'autre que ce qu'ils voudraient qu'on leur fît? Ne sont-ils pas doux, humbles et sobres? Ne supportent-ils pas beaucoup d'injustices, plutôt que d'en faire à qui que ce soit? Ne sont-ils pas de ceux qui se plaisent dans les voies du Seigneur? Ne renoncent-ils pas au monde et à ses plaisirs? Et n'abandonnent-ils pas toute iniquité plus que vous-même? Ne prennent-ils pas la croix quotidienne de Christ contre toutes les voies du monde et ses gloires terrestres? Ne prêchent-ils pas dans la puissance de Dieu, atteignant vos consciences lorsque vous les entendez? La lumière en vous ne répond-elle pas qu'ils disent la vérité? Leur doctrine, leur pratique et leur entretien ne sont-ils pas les mêmes que ceux des apôtres et des ministres fidèles? Comparez-les à l'Écriture, puis jugez dans vos consciences. Ne souffrent-ils pas beaucoup de choses dures et cruelles, et même toutes sortes de maldits et faits contre faussement, à cause du nom de Christ? Ignorez-vous leur grande souffrance dans cette nation? Et qu'en pensez-vous? Souffrent-ils pour avoir fait le mal, ou n'est-ce pas pour la justice? Quel mal font-ils à qui que ce soit, par acte ou par parole? Pourquoi sont-ils injuriés, et moqués, et tournés en dérision? Pourquoi sont-ils jetés en prison, fouettés, et ainsi cruellement maltraités? Est-ce pour quelque mal, ou n'est-ce pas parce qu'ils sont les serviteurs du Seigneur? Comparez leurs fruits aux fruits des prêtres, leur conduite à la conduite des prêtres, et voyez laquelle ressemble le plus à celle des apôtres. Je vous laisse ces choses, afin que vous en veniez à considérer et à juger justement toutes choses, car le Seigneur Dieu est ressuscité, et sa lumière dans les consciences des gens brille au dehors, et elle répondra à ce que je dis en ce monde ou au jour du jugement, lorsque nous, et tout le genre humain paraîtront et sortiront pour être jugés, et que l'œuvre de chaque homme sera éprouvée, et que tous recevront selon leurs œuvres. Aussi volontiers voudrions-nous être rendus manifestes à tout le monde que si, après la lecture de ce livre, quelques-uns ne sont toujours pas satisfaits en cette matière, et si quelques-uns, surtout parmi les chefs et les gouvernants, ont des doutes ou des soupçons éveillés en eux à notre sujet, au sujet des prêtres, et veulent être davantage satisfaits et éclaircis, à cette fin que des hommes sages propos pour la pleine satisfaction de toutes sortes de gens, que nous avec le consentement des principaux en autorité qui ont pouvoir dans cette nation. Autrement que les prêtres, ou les professants, ou l'un d'eux, objectent ce qu'ils peuvent contre nous, dans nos principes, notre profession, notre foi et notre pratique, et dans toute notre religion. S'ils affirment et allèguent une ou plusieurs choses contre nous, à savoir qu'un principe que nous tenons, ou une pratique dans laquelle on nous trouve dans toute notre religion, sont de faux principes et de fausses pratiques, et non selon la vérité ni les Écritures, mais s'ils affirment que notre religion n'est pas la vraie religion, ni nous de la véritable Église du Christ, ils auront pleine liberté d'apporter leurs meilleures preuves et raisons pour ce qu'ils affirment et allèguent. Pourtant, par la force de Christ, et dans la puissance et l'autorité de Dieu, et selon les Écritures, nous détruirons toutes leurs preuves et leurs raisons les plus fortes. Au contraire, nous unirons nos principes, doctrines et pratiques, et toute notre religion et chaque partie et détail pour être la vérité même, et en accord avec les Écritures, et selon cela nous soutiendrons par des arguments et une plaidoirie légitime que notre religion et notre culte, et tout ce que nous professons et pratiquons, sont selon la pensée du Seigneur et justifiés par lui, et que tout ce qui était peut-être dit contre nous à ce sujet est entièrement faux et doit être condamné, et sur cela nous nous engagerons avec eux, et avec. De plus, dans un tel engagement, nous conviendrions d'avoir la liberté, librement et sobrement, d'objecter contre les prêtres, au sujet de leur ministère, de leur appel, de leur pratique, de leur entretien, et de leurs fruits et effets, et au sujet de leur Église, et de leurs principes, et de leur culte, et de toute leur religion. Nous écouterons patiemment tout ce qui peut être dit en défense de cela par l'un ou par tous, et nous prouverons, par l'Esprit du Seigneur et selon les Écritures, que leur ministère n'est pas le véritable ministère de Christ, ni eux de vrais et légitimes ministres de l'Évangile. Mais nous montrerons, par des arguments évidents, que leur appel, leur pratique, leur entretien, leurs fruits et leurs effets ne sont pas conformes, mais contraires à ce qu'était le vrai ministère, et à ce que furent son appel, sa pratique, son entretien, ses fruits et ses effets chez les vrais apôtres, et parmi les véritables églises. En outre, par la grâce de Dieu, nous prouverons que leur Église, leur culte et toute leur religion, en toutes ses parties, a dégénéré par rapport à ce qu'était la véritable Église, le véritable culte et la véritable religion, au jour des apôtres et des vraies églises d'autrefois. Ces choses, nous les rendrons manifestes par des arguments fidèles et solides selon les Écritures, afin que toute la terre sache, et que tout le peuple discerne qui est dans la vérité et dans le véritable culte et la véritable religion, et qui est dans le contraire, et si ce sont les prêtres, et ce qu'ils professent et pratiquent pour religion, ou les Quakers, et ce qu'ils professent et pratiquent pour religion qui sont de Dieu et selon lui, et lesquels sont contraires, afin que la fin de ce long voyage, de cette guerre et de cette controverse soit décidée et juste. Que tous les prêtres et professants mettent de côté et cessent leur maison de correction, et l'emprisonnement des gens, et le fait de nous fouetter, de nous mettre au cep, et d'agir avec une telle violence et cruauté, comme ils l'ont fait depuis des années pour défendre leur religion et résister à la nôtre. qu'ils mettent de côté leurs armes charnelles et le combat contre nos personnes et l'emprisonnement au sujet de notre religion, et qu'ils viennent avec des arguments solides, les meilleurs qu'ils aient, et que nous voyons quelles armes spirituelles ils ont pour nous résister et se défendre, et essayons si leurs armes spirituelles ou les nôtres sont les plus fortes, les plus puissantes et les plus redoutables, et que celles qui sont elles prévalent sur les autres, qu'elles soient les nôtres ou les leurs. Voilà la manière d'éprouver la vérité et de rendre toute chose manifeste, et de décider et terminer toute la controverse entre nous et eux, qui a été grande durant tant d'années. Que la vérité soit établie et exaltée partout où elle est, et que toute tromperie soit jetée à terre, et que nous fassions la guerre avec les armes de l'esprit, contre l'erreur et la fausse religion, l'un contre l'autre, mais que nous ne blessions ni n'emprisonnions les personnes, ni ne les mettions au cep, ni ne les fouettions, ni ne les fassions souffrir. Mais battons la tromperie, fouettons et frappons cela, et toutes les fausses opinions, jetons-les à terre là où elles se trouvent, que ce soit en eux ou en nous, et combattons avec les armes de l'esprit, qui sont spirituelles, et qu'ils ne combattent plus avec de si cruelles armes charnelles. Alors que ceux qui remportent la victoire et triomphent paraissent être dans la vérité de l'Église, et que ceux qui tombent et sont vaincus soient manifestés être dans l'erreur, et de la fausse Église et religion. Aimons les personnes les unes des autres, et qu'ils n'agissent pas envers nos personnes autrement que nous n'agissons envers les leurs et envers eux, et qu'ils prennent la liberté de traiter avec nous et nos personnes comme nous les traitons, eux et leurs personnes, et non autrement. Que cela donc, qu'il s'agisse d'eux de nous, qui ne peuvent se prouver être la véritable Église du Christ, ni du véritable culte et de la vraie religion, ni dans la vérité, mais se trouvent dans l'erreur et hors de la vérité, que cela renie leur culte et leur Église, renoncent à toute leur religion et confessent au monde entier de leurs mains qu'ils sont et ont été trompés, et qu'à l'avenir ils se testent à jamais, et ne professent ni ne pratiquent plus rien de ce qu'ils ont fait dans une telle religion. C'est librement, sur ces points et à ces conditions, que nous accepterons de les mettre à l'épreuve, qu'ils fixent à leur gré le temps et le lieu, et qu'ils proposent les termes qu'il leur plaira, et alors il sera manifeste aux yeux du monde entier, et connu de tous, si nous n'avons pas un fondement solide et des raisons suffisantes de faire la guerre à ces prêtres. Il pourra apparaître clairement que ce que nous avons dit et écrit contre eux, ces dernières années, reposait sur une bonne base, et que nous avions des causes suffisantes pour parler et écrire contre eux comme nous l'avons fait. Dès lors, nul n'aura sujet de dire, ou de douter, que ce que nous avons dit et écrit contre eux l'a été par malice ou par envie, sans cause ni bonne raison, mais, au contraire, tous sauront que le motif de Crêle est suffisant et pleinement équitable de notre côté. À ces conditions, ou à d'autres équivalentes, nous voudrions, et nous sommes disposés à nous engager avec ces prêtres, et avec toute ou l'une quelconque de ces sectes, dans une épreuve légitime, par dispute ou par écrit, pour éprouver et rechercher la vérité et la vraie religion. Et n'était-il pas juste et raisonnable que nous eussions la même liberté parmi tous ces prêtres, et dans leurs églises ou assemblées, de déclarer librement notre pensée et d'exprimer ce que nous tenons et professons, sans être traînés de force, battus, fouettés et envoyés en prison comme nous l'avons été tant d'années. Cette liberté, nous la concédons et l'accordons librement parmi nous à tous pour questionner ou déclarer ce qu'ils ont sur le cœur, sans de tels traitements violents, ni coups de fouet, ni envoi dans des prisons et maisons de correction. Nous ne désirons, en ce point, de la part des autres, que la même liberté et pas une autre de déclarer la vérité et ce que nous tenons, que celle que nous accordons et voudrions accorder à autrui, et qu'aucune arme ne soit employée par eux contre nous, ni aucune manière d'agir envers nous, sinon les armes de l'esprit, les meilleures qu'ils ont ou peuvent produire contre nous. Qu'ils laissent les créatures tranquilles, et ne leur fassent ni mal ni violence, et nous n'userons contre eux d'aucune autre arme, ni ne traiterons avec eux par autre chose que les armes de l'Esprit de Dieu, qui est puissant et abat les forteresses, et quant aux créatures, nous ne leur ferons aucun mal, aucune violence, et ne les emprisonnerons pas. Que ceux dont les armes sont les plus fortes l'emportent. Ceux qui sont vaincus ne sont pas la véritable Église, car la véritable Église du Christ bâtie sur le roc, les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre elle. Que ceux qui remportent la victoire fassent voir que Dieu est véritablement avec eux. Qu'ils cessent tous de défendre leur Église, leur ministère et leur religion par des prisons, des fouets et des maisons de correction, car la véritable Église, le véritable ministère et la vraie religion ne furent jamais défendus par de telles choses, mais seule la puissance et l'autorité de Dieu les ont préservés et ont résisté à tous leurs ennemis, et ainsi en est-il aujourd'hui. Que tous cessent de crier, trompeurs, et d'avoir peur d'être trompés, car s'ils sont la véritable Église tous, ou l'une quelconque de ces sectes et professions de religion alors, si nous sommes des trompeurs et venons parmi eux, ils ne peuvent être trompés s'ils sont dans l'élection, car ni les trompeurs, ni les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre la véritable Église du Christ, ni contre ceux qui sont élus, en qui le diable n'a rien. Si nous sommes la véritable Église du Christ, et dans l'élection, alors, si tous les trompeurs de la terre viennent parmi nous, Ils ne peuvent prévaloir contre nous ni nous tromper, car les élus ne peuvent être trompés. À ces conditions, nous pouvons nous engager avec n'importe quel peuple et n'importe quelle secte sur la terre. Venez donc à cela et joignez-vous à nous. Prenez la liberté de déclarer sobrement ce que vous reconnaissez et professez, et vous ne serez pas persécutés, ni vos corps ni vos personnes ne seront atteints par la violence, et que nous ayons cette liberté de déclarer avec douceur et sobriété, et dans l'autorité de Dieu parmi vous ce que nous tenons et professons, et que nous ne soyons pas persécutés ni traités violemment, et qu'il paraisse alors si nous, ou nos ennemis, avons un témoignage plus grand et plus puissant dans le cœur des gens. N'est-ce pas là une voie pleine d'équité pour l'épreuve de toutes choses, mais agir au contraire, comme vous l'avez fait tant d'années contre nous, par la violence, les coups de fouet et la persécution, montre que vous n'avez pas les armes spirituelles, ni l'autorité de Dieu avec vous, ni parmi vous. C'est là la cause pour laquelle vous courez aux magistrats, emprisonnés, fouettés et usés de toute violence, parce que l'autorité de l'Esprit de Dieu manque parmi vous, ce qui a manqué à toutes les fausses sectes et fausses églises, depuis les jours des apôtres, pour se défendre et résister à leurs ennemis. Ainsi toutes les sectes se sont combattues les unes les autres, ont tué des personnes, et se sont défendues par des prisons, des inquisitions et la destruction des vies. Tout cela a été hors de la puissance de Dieu et dans la puissance du dragon et de la bête, qui a contraint tous à adorer, et ceux qui ne voulaient pas, il a eu pouvoir de les tuer, et les a tués par les feux, les tortures et des morts cruelles. Tous ceux-là ont perdu les armes spirituelles et ont été sans la puissance et l'Esprit de Dieu. Quelle est donc cette Église des vôtres, qui a besoin d'être défendue par des cachots, des prisons, des fouets, des entraves et des traitements violents? Cette Église n'est pas l'Église du Christ, car la puissance et l'Esprit de Dieu la défendent toujours, et non les inquisitions, les prisons et les fouets. Ce sont les armes de Caïn, et non les armes de l'Esprit de Dieu, par lesquelles sa véritable Église fut jamais défendue. Car parce que le sacrifice de Caïn ne fut pas agréé, il tua son frère et le persécuta. Et ainsi vous, qui êtes de la semence de Caïn, faites de même pour la même raison, parce que vos œuvres sont rejetées, et les leurs acceptées et ceux envers qui vous agissez ainsi, par cette voie violente de persécution et de méchanceté. Voici l'Église protestante, ainsi nommée, et ses ministres, avec lesquels je traite maintenant, qui semblent être la véritable Église, et plus que l'Église de Rome. Car vous, ministres protestants, vous niez et vous vous écriez contre l'Église de Rome comme étant une fausse Église, et contre ses ministres comme étant des trompeurs, ce qui, en soi, est très vrai, pourtant votre hypocrisie y paraît, et votre duplicité. Car laissez-moi vous dire, tandis que vous criez contre l'Église de Rome comme contre une fausse idolâtre et une persécutrice de la véritable Église, et contre ses ministres comme contre des trompeurs, contraires aux apôtres, vos esprits sont les mêmes, et vos œuvres sont de même nature, quoique non dans la même mesure, et en particulier cette œuvre de votre part d'emprisonner des gens, de les fouetter, de les mettre aux entraves, de les battre et de maltraiter leurs personnes, eux qui ne font que parler contre vous et votre religion, cette œuvre n'est-elle pas de là? Elle, pour se défendre, a des inquisitions, des bannissements et bien des tortures cruelles, et par ces choses elle se défend, tuant et affligeant les corps de ceux qui s'opposent à elle ni sa religion. Et vous, vous avez les entraves, les fouets et les maisons de correction, vous imposez de grandes amendes et corvées aux gens, vous les bannissez des villes, vous pillez leurs biens, et vous les jetez en prison où beaucoup meurent, eux qui s'opposent à votre église et nient votre religion. N'est-ce pas, en nature, conforme et justement comparable à la persécution qui se trouve dans l'église romaine, quelle est la différence entre la défense de l'église de Rome et celle de votre église de protestants? Ils ont leurs inquisitions, et vous avez vos maisons de correction, ils ont leur esclavage aux galères, et vous avez fouet et entrave, ils ont leurs divers tourments et leurs cruautés envers ceux qui s'opposent à eux d'une manière, et vous avez vos tourments et vos cruautés envers nous d'une autre manière, quoique non dans la même mesure, pourtant de même nature. Quelle différence entre vous et eux? En cela apparaît l'hypocrisie de l'Église protestante et de ses ministres. Ils crient contre l'Église de Rome et nient ses persécutions et cruautés exercées contre d'autres, et pourtant, en nature et en manière, ils pratiquent exactement la même chose contre nous, comme l'Angleterre en témoigne aujourd'hui. Non seulement, sur ce point particulier, l'Église et les ministres des protestants peuvent être condamnés pour hypocrisie, mais aussi en beaucoup d'autres choses. Même la plupart de leurs pratiques dans leur culte sont de même nature et procèdent du même esprit que celles par lesquelles les pratiques de l'Église de Rome sont accomplies. Non seulement cela, mais il peut être véritablement prouvé et rendu manifeste que nombre de pratiques de votre Église procèdent de l'Église et du pape de Rome, qui ont ordonné et institué nombre de vos pratiques, et une grande part de votre culte, tel qu'il est accompli dans l'Église et par le ministère des protestants ainsi nommé. En temps voulu, je puis le faire pleinement paraître et le découvrir aux nations, et je puis montrer, dans le détail, quelles particularités du culte et de la pratique de l'Église protestante ont pris naissance et leur origine dans l'Église de Rome. quoique ces choses aient été accommodées par des retranchements et des ajouts selon ce que leurs imaginations les ont guidées, elles conservent encore le goût et la saveur les plus marquées de l'Église de Rome et y ont eu leur commencement et leur origine. Bien que, dans leur accomplissement, elles puissent être altérées et changées d'apparence et de forme, elles sont parfaitement les mêmes quant au fond et à la nature, comme procédant de l'Église de Rome, et elle est la mère de l'Église protestante et de la plupart de ses pratiques et accomplissements dans le culte. Cela peut être prouvé, et si Dieu le veut, à l'occasion selon que le Seigneur me poussera, je pourrai montrer que, bien que l'Église des protestants ait déserté l'Église de Rome, toutefois son ministère, sa vocation et son ordination, ainsi que sa pratique et son entretien, dépendent de l'Église de Rome comme étant l'origine de ce qu'il y pratique, bien qu'il se soit écarté, en certaines choses, de la forme et de la pratique exacte de celle-ci. De plus, l'ensemble du culte, tous les points relatifs à l'Église protestante, au ministère et au culte dépendent de l'Église de Rome, comme en étant la première origine. Quoique ceux-ci crient contre elle et ses ministres, et les renier, elle n'en demeure pas moins la mère dont sont issues l'Église protestante, le ministère, le culte et les pratiques, et l'on peut pleinement manifester que l'Église, le ministère et le culte des protestants ont surtout le goût et la saveur de l'Église et du culte de Rome, et tirent d'elle leur origine. On peut encore montrer que l'Église protestante, son culte et son ministère ne sont pas, en nature et en être, autre chose que l'Église romaine, son ministère et son culte, mais qu'ils en ont jailli comme des branches d'une même racine, le fond étant un et le même, quoique différent d'apparence. Car dans son commencement et sa première dissidence d'avec l'Église romaine, elle ne lagna pas quant au fond et à l'être, comme n'étant en aucune manière l'Église du Christ. Elle ne s'en écarta que sur certains points, tout en conservant alors et jusqu'à ce jour, plusieurs de leurs pratiques de culte et de gouvernement d'Église. Ce qui montre que l'Église protestante n'est pas parfaitement autre, ni son ministère, son gouvernement et son culte autre, mais les mêmes quant au fond et à l'être, ne s'étant écartée et détournée que sur des points particuliers. En temps voulu, il pourra être pleinement manifeste que l'Église protestante, son culte et son ministère sont issus de l'Église romaine comme une branche d'elle, non contraires à elle ni contre elle. Toutes ces choses, le Seigneur les découvre et les met à nu, afin que nations et peuples viennent contempler la mère des prostituées, ce mystère d'iniquité, et tous ses enfants, et qu'ils voient l'état et la tournure des temps et des choses depuis les jours des apôtres et des véritables églises. Que toutes ces diverses sectes et toutes ces églises faussement ainsi nommées se sont élevées les unes des autres, d'une même semence et d'un même saint, et quoique diverses d'apparence et nombreuses dans leurs pratiques et professions, elles sont toutes une quant au fond et à la nature, toutes issues de la mère des prostituées, et toutes sont ses enfants. Elle a corrompu la terre par ses fornications et prostitutions, et a enivré les nations et les royaumes de sa coupe d'idolâtrie. Mais le Seigneur Dieu s'est levé et plaidera contre elle, et lui rendra le double, et les saints prophètes et apôtres se réjouiront sur elle. Et cela est en train de s'accomplir, et je l'ai vu de la part du Seigneur, et je l'ai reçu de lui, et ainsi il m'est venu d'écrire. J'ai vu les eaux se dessécher, le siège de cette grande prostituée, qui, par la coupe de fornication de son pouvoir séduisant, a enivré ainsi toutes les nations, et souillé la terre entière de sa coupe de sorcellerie, elle qui les a longtemps abusées. Mais il est et il sera des peuples nombreux, et des multitudes en grand nombre, et toutes les nations seront converties vers une autre voie. Et les langues maintenant seront confondues, et les lignées devront se lamenter, et quand cela sera vu accompli, alors on dira « son siège est arraché ». Car ce sont là toutes les grandes eaux sur lesquelles son siège s'est tenu, et sur lesquelles sa domination fut grande, telle une reine majestueuse. Durant les âges passés, on le voit maintenant, elle a joué ses prostitutions, et des royaumes ont été ensorcelés, qui ont obéi à sa puissance. Mais maintenant on le voit, ses sortilèges sont connus, et les hommes ne croiront plus, sa misère est révélée. Et le lit funeste, je le vois préparé pour de grands tourments, sur lequel elle doit bientôt être jetée, et les plaies ne doivent pas être épargnées, mais malheur à elle, la coupe de colère est remplie qu'elle donna aux autres, elle doit maintenant la boire elle-même, c'est la même qu'elle doit avoir. Et elle doit boire, et bien profondément, de la farouche indignation de Dieu, et alors ses amants pleureront, et pousseront de grandes lamentations. La cité aussi, je l'ai vue, qui fut autrefois grande et belle, détruite, et bientôt mise en ruine, ses marchands désespéraient. Eux qui, par elle, obtinrent grand profit et commerce pour les enrichir, et elle avait des trafics lointains, mais maintenant tous se lamentent car un feu en elle s'est allumé vivement, qui doit tout la consumer, et jusqu'au ciel, jour et nuit, sa fumée s'élève. Et l'Antichrist, qui écumait avec rapacité contre la vérité, la lumière était couvert d'un vêtement de brebis, et dominait les rois par sa force. Il a ravagé l'héritage de Dieu et eut un grand royaume, les saints lui firent la guerre, et la vérité lui infligea la défaite. Voici, j'ai vu la chair de la prostituée brûler, sa beauté tombe maintenant, Elle a été la mère de toutes les prostituées, ses filles sont toutes des prostituées. Voici grande et belle cité, elle est tombée à terre, par laquelle les nations s'enrichissaient, en elle nul profit n'est trouvé. Voici l'Antichrist autrefois grand, son royaume près d'être dévasté, le Seigneur le fera descendre de son siège, le jour vient en hâte. Le royaume du Christ vient avec rapidité, le Seigneur seul régnera, il élèvera à jamais sa semence au-dessus de l'Antichrist et de sa troupe. La femme, je l'ai vue revenir, elle prit le désert, un lieu où elle se lamenta beaucoup, et là elle prit repos. J'ai vu l'essor de sa semence, l'enfant mâle doit maintenant gouverner, par lui les nations ont resplendi pour toujours, dis-je, louange au roi céleste quand cela s'accomplira. Oh alors réjouissez-vous et chantez, vous tous saints et prophètes, quand Dieu versera sa grande vengeance pour faire tomber nos ennemis, alors est le jour où la louange convient aux saints grands et petits. Poème ci-dessus d'Edward Burroughs dans ce livre, The Great Mystery of the Great Whore Unfolded, An Antichrist Kingdom Revealed, a été considérablement modifié par les éditeurs, c'est pourquoi il a été remplacé par la formulation originale trouvée dans un livre antérieur contenant tous les écrits d'Edward Burroughs, The Memorable Works of a Son Thunder and Consolation, namely, That True Prophet and Faithful Servant of God, and Suffered for the Testimony of Jesus Edward Burroughs, who died a prisoner for the. Edward Burroughs, Londres, le 9e mois 1658. Ici sont les principes des prêtres, des professeurs et des pasteurs dans l'apostasie, qui se sont élevés depuis les jours des apôtres, et qui, en ce jour, se sont dressés contre l'agneau et contre les saints. Car depuis les jours des apôtres, la bête a eu pouvoir, le faux prophète et la mère des prostituées, qui intérieurement ravageaient loin de l'esprit de Dieu, et qui ont porté la peau de brebis, et par ce moyen ont trompé les nations, ont gagné les rois de la terre, et les ont revêtus du dehors, par quoi les rois de la terre, la bête, le faux prophète, le dragon, le diable, la mère des prostituées et la grande prostituée se sont unis en un contre les saints, les ont vaincus, les ont jetés en prison, et ont bu le sang des saints. Mais maintenant les saints et l'agneau auront la victoire, lui qui tue s'est fait périr avec l'épée, qui sont les paroles de sa bouche, conformément à la doctrine de l'apôtre, qui ne lutte pas contre la chair et le sang. Or la bête, le faux prophète et la mère des prostituées, le diable et l'antichrist, qui ont bu le sang des saints, qui portent la peau de brebis, ce sont eux les tueurs par l'épée, les meurtriers par l'épée, les emprisonneurs et les persécuteurs, ceux qui n'étaient pas l'œuvre des véritables apôtres, des véritables ministres, qui gardaient la foi et la patience de Jésus. Les martyrs, les saints et les prophètes ont souffert. Ceux-ci étaient dans l'esprit qui a produit les Écritures, mais les autres ont obtenu les Écritures, Antichrist, faux prophète, mère des prostituées, le diable, la bête et tous ses noms, qui tuaient et faisaient périr par l'épée. Ceux-là, intérieurement, ravagent loin de l'esprit de Dieu, de l'esprit de l'agneau, de l'esprit de l'apôtre, eux qui tuaient et faisaient périr par l'épée, qui sont les paroles de sa bouche. Ainsi tous ces noms, dans toute la chrétienté, parmi tous ceux qu'on appelle chrétiens, se sont élevés parmi eux depuis les jours des apôtres, eux qui sont sortis de la vie, de la foi et de l'esprit dans lesquels ils étaient, et dans lesquels ils avaient l'unité, qui était le lien de la paix. Ceux-ci ont eu les paroles, mais se sont éloignés de la vie. Ainsi, ils sont tous entassés autour des paroles, se donnant des noms les uns aux autres. Regardez donc, dans toute la chrétienté, et voyez quelle abondance de noms il y a, alors qu'il ne devrait y avoir qu'une seule famille. Astérisque tous ces noms, ces cornes et ces couronnes, ces édifications et ces démolitions, sont tous une marque parmi ceux qui ont eu les paroles mais étaient hors de la vie. Vie qui maintenant est relevée, celle dans laquelle vivaient les apôtres, et dont depuis les jours des apôtres, ils ont été hors, en beaucoup de noms et d'amas, dans l'apostasie. Or, avec la vie, tout cela est sondé et compris, et c'est en elle qu'est l'unité, laquelle amène les gens à connaître Dieu, et à l'unité avec lui, avec les Écritures et les uns avec les autres, et tous sont un ici, fussent-ils 10 000 fois 10 000. Vous qui lisez ce livre, vous pourrez lire et voir des choses que vous n'avez jamais lues ni vues imprimées. Les agneaux ont-ils jamais déchiré les loups? Les loups n'ont-ils pas revêtu la peau de brebis? Et ne se sont-ils pas rués après les brebis et les agneaux, afin de pouvoir se mêler à eux? L'orgueil, la sauvagerie et le plaisir ont englouti les gens, les docteurs et les ministres, de sorte que si quelqu'un est sobre et tranquille, aussitôt le voilà quake, ainsi la modestie est dévorée. Astérisque commentaire de l'éditeur du site, il existe aujourd'hui 41 000 sectes différentes dans le christianisme. C'est l'esprit charnel de l'homme, plutôt que le Saint-Esprit, qui contrôle l'apprentissage issu de l'étude de la Bible, car le but du Saint-Esprit est d'avoir l'unité de la foi. Pourtant il y a 41 000 sectes dans le christianisme, chacune avec un ensemble différent de croyances quant à ce que la Bible signifie réellement. Chaque secte prend un sous-ensemble des Écritures et crée sa propre image de Dieu et de Jésus, puis l'adore, le tout fondé sur leur opinion collective quant aux Écritures qui seraient invalides et à celles qui, selon eux, leur donnent la vie éternelle. Mais toutes les Écritures sont valides, et si vous devez en ignorer certaines qui entrent en conflit avec votre compréhension, vous ne comprenez pas réellement celle que vous pensez comprendre. C'est une preuve massive que l'étude de la Bible produit l'opposé de ce que désire le Saint-Esprit une seule fois et n'aboutit pas à la vérité. Au lieu de l'étude de la Bible, nous avons besoin d'être instruits directement par le Saint-Esprit en écoutant, lui qui désire et promet de nous enseigner toutes choses. Jean 14, 26. Ceci est la préface du volume 3/8. Cliquez ici pour aller au début des réfutations de Fox aux affirmations non scripturaires des sectes protestantes en Angleterre. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant du pouvoir transformateur de Dieu par la croix, ce qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.